Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions. Le thème que nous allons aborder à présent est « L'amour de Dieu et la maladie du sida ».
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous savons que la maladie du sida représente un problème grave pour de nombreux pays, particulièrement pour le continent africain. Bien des personnes en souffrent et beaucoup trop en meurent. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons réfléchir sur la façon dont nous pouvons aimer les victimes de cette maladie.
Oui, cependant, avant d'aborder ce sujet, il serait important de parler de prévention, car si nous aimons une personne, nous souhaitons avant tout la protéger de cette maladie. Or nous savons que la maladie du sida s'attrape essentiellement par voie sexuelle. Ainsi, la meilleure façon de se protéger de cette maladie et de protéger nos proches est de s'abstenir de tout rapport sexuel autre que dans le cadre conjugal. Selon la Bible, la pratique de la sexualité est une bonne chose en elle-même, mais elle doit être limitée au seul cadre du mariage entre un homme et une femme. La Bible interdit toute autre relation sexuelle. Il ne devrait pas y en avoir ni avant le mariage, ni en dehors du mariage. La prostitution, l'adultère, la pratique de l'homosexualité ne sont pas permis par Dieu. Malheureusement, l'immoralité sexuelle favorise la progression du sida. Les rapports sexuels avec plusieurs partenaires multiplient le risque d'attraper cette maladie et de la porter au sein même de sa propre famille. De nombreuses femmes fidèles et morales contractent cette maladie simplement parce que leur mari fréquente des prostituées et s'adonnent à l'adultère. De toute évidence, ces hommes ne respectent pas leurs femmes qui peuvent tomber enceintes et contaminer l'enfant qu'elles portent.
Ainsi, beaucoup sont victimes du sida à cause de l'irresponsabilité d'un proche et non à cause de leur propre inconduite.
C'est exact. C'est pourquoi nous appelons les uns et les autres à réfléchir sérieusement aux conséquences tragiques et désastreuses de l'inconduite sexuelle. Et nous vous encourageons à vivre la sexualité selon les recommandations de la Bible. Nous y découvrons toute la sagesse d'un Dieu d'amour qui cherche à nous instruire sur la manière de mener à bien nos vies afin de nous protéger du danger de l'immoralité.
Ayant rapidement fait le tour de la question sur la prévention, nous voulons à présent aborder la question suivante. Comment aimer les victimes du sida?
Ma première remarque est qu'en effet, il faut les aimer. Cela peut paraître évident, mais malheureusement, en pratique, cela n'est pas toujours le cas.
Pourquoi?
Beaucoup de fausses rumeurs demeurent au sujet du sida. Il existe dans les cœurs et les pensées beaucoup de craintes concernant cette maladie et de préjugés relatifs à ceux qui en souffrent. Tous ces facteurs poussent bien des personnes à s'éloigner des victimes de cette maladie. Beaucoup trop méprisent et rejettent ceux qui en sont affligés, et au lieu de leur porter secours, ils préfèrent les abandonner. Bien du travail est à faire pour changer ces attitudes. Mais nous savons que beaucoup sont présents sur le terrain pour justement œuvrer dans ce sens.
Pouvez-vous appuyer ce que vous affirmez en vous référant à la Bible?
Prenons les paroles de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Le Fils de Dieu, qui est Jésus, est venu dans notre monde pécheur, car tous, sans exception, nous méritions la condamnation de Dieu. Notre état de pécheur ne nous permettant pas de nous approcher de lui, le Dieu juste et pur. Toutefois, nous apprenons dans les évangiles que Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous condamner, mais afin de nous sauver. Or précisément, la tentation existe en nous de condamner les victimes du sida, même si beaucoup d'entre elles ne sont pas coupables d'inconduite sexuelle. Et pourtant, envers nous qui sommes coupables, envers nous qui sommes pécheurs, Jésus montre l'exemple à suivre. Il nous aime d'un amour infini et il veut nous sauver. Pourquoi donc alors condamner les victimes de sida? À l'exemple de Jésus, nous devons les aimer afin qu'elles puissent voir à travers nous l'amour du Dieu vivant.
Et pouvons-nous établir un parallèle entre ceux qui, à l'époque de Jésus, souffraient de la lèpre et ceux qui souffrent du sida de nos jours?
Oui, à l'époque de Jésus, la maladie de la lèpre était mal comprise. Les personnes qui en étaient atteintes étaient contraintes de vivre loin des leurs. Elles étaient méprisées, rejetées. Et pourtant, Jésus s'est rendu auprès d'elles. Il leur a témoigné de l'amour. Il leur a prouvé que pour Dieu, elles existaient. Dieu avait vu leur souffrance. En ce temps-là, personne n'osait avoir un contact physique avec un lépreux. Mais Jésus, lui, les touchait. Beaucoup pensaient que ces personnes avaient contracté cette maladie à cause d'un péché grave. Mais Jésus, lui, au lieu de les condamner, leur a apporté de l'amour et leur a offert son salut et la guérison.
Ainsi, le premier pas à faire est de changer notre attitude envers les personnes atteintes du sida et d'aller vers elles en les côtoyant, en les abordant sans crainte ni préjugé. Mais quel serait le deuxième pas à faire afin de leur exprimer de l'amour?
Nous avons appris tout au long de cette série que l'amour consiste à accomplir des gestes, des actes, qui répondent très concrètement aux besoins de ceux qui souffrent. Il est vrai que les personnes affectées par cette maladie éprouvent des besoins divers en fonction de son évolution. Beaucoup mènent une vie en apparence normale, mais ont besoin d'amis qui les comprennent, d'amis capables de les soutenir, d'apporter une consolation et une espérance spirituelle. D'autres, ne pouvant plus travailler, se trouvent démunis et ont besoin d'être secourus sur le plan matériel. Ceux qui sont alités seraient soulagés de recevoir des visites de réconfort ou de bénéficier de l'aide de personnes pouvant s'occuper de leur repas ou leur faire des courses, que sais-je encore.
Les personnes atteintes de maladies graves telles que le sida sont confrontées à des besoins sur les plans matériels, émotionnels et spirituels.
Oui, et c'est aux chrétiens et aux églises de réfléchir sur ce qu'il leur est possible d'accomplir dans leur propre contexte pour répondre à ces besoins.
De plus, à ce problème s'ajoute celui d'un nombre croissant d'orphelins, d'enfants qui ont perdu un ou deux parents à cause de cette maladie.
Oui, beaucoup de ces enfants se retrouvent sans famille, sans proches capables de prendre soin d'eux. Ils sont démunis, vulnérables. Ils peuvent subir la maltraitance et se retrouver exploités. Ces enfants ont besoin de personnes justes et bonnes pour veiller sur eux, pour les encadrer, pour assurer leur bien-être et répondre à leurs besoins. Une fois encore, les églises et les chrétiens peuvent jouer un rôle important auprès de ces enfants.
Merci Jean-Marc. Le sida est un sujet difficile et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour l'aborder. De ce fait, nous avons peut-être laissé de nombreuses questions en suspens. Toutefois, la leçon essentielle est celle-ci. L'Éternel nous demande d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Or, ce prochain peut être aussi atteint du sida. Réfléchissons alors à la façon de lui apporter de l'amour. Un amour qui répondra à ses attentes. Un amour qui lui redonnera courage et une espérance pour faire face à cette terrible maladie.
Comme nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent méditer sur l'amour de Dieu.
Notre méditation biblique portera sur une image de l'Ancien Testament donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du psaume 36, versets 6 à 8. Ensuite, Alain nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
Jusqu'au ciel va ton amour, éternel. Et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient.
Le psalmiste décrit l'amour de Dieu en ayant recours à des images faisant appel à la nature. À la fin du texte lu, il évoque les oiseaux et plus précisément la manière dont ils protègent leurs oisillons. Lorsqu'un oisillon naît, il devient alors très vulnérable, mais sous les ailes de sa mère, il trouve un refuge sécurisant et confortable. Là, il est à l'abri des intempéries, du vent, du froid et de la pluie. Sous les ailes de ses parents, il est à l'aise. Plus important encore, il y est protégé des prédateurs qui trouveraient en lui l'occasion d'un bon repas. Mais quelles leçons sont à retenir de cette image si parlante? L'image des ailes déployées est celle de l'amour que l'Éternel déploie envers nous, toutes les fois que nous nous approchons de lui afin de nous réfugier en lui. Dans ce monde malheureux, nous sommes vulnérables. Peut-être beaucoup pensent être suffisamment forts et débrouillards pour affronter la vie tout seul. Toutefois, il suffit de peu de choses pour que nous soyons ballottés de tous côtés et finalement brisés. Les épreuves et les difficultés désorientent nos sentiments et nos pensées, produisant crainte et angoisse, découragement et désespoir, nous forçant à avoir des réactions et des conduites précipitées, irréfléchies et parfois dangereuses. Que faire? Nous pouvons trouver un refuge sous les ailes du Dieu d'amour. Ceci ne veut pas forcément dire qu'il nous protégera de tout danger, qu'il enlèvera toute épreuve. Non. Mais sous les ailes de l'amour de l'Éternel, nous aurons un regard différent sur nos circonstances. Sous les ailes de l'Éternel, et parce qu'il nous aime, il apaisera nos pensées et nos sentiments. Il accordera sa sagesse afin que nous ayons un regard juste sur notre situation, afin que nous ayons des pensées mûres et spirituelles. Auprès de Dieu, nos sentiments agités sont rassurés. Nos craintes et nos angoisses sont remplacées par la paix, le désespoir et le découragement par l'espérance, la tristesse par la consolation et le réconfort, la solitude par la conviction d'être aimé et accompagné. Oui, qu'il est bon de demeurer sous les ailes du Dieu d'amour. Nous devons nous approcher de lui en tout temps, plutôt que d'essayer de faire face à la vie seule et sans personne. Alors que nous terminons cette série explorant les images de l'Ancien Testament qui nous parlent de l'amour de Dieu, nous voulons de nouveau citer le psaume lu tout à l'heure. « Jusqu'au ciel va ton amour, éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. » Comment mesurer l'amour de Dieu? Cela demeure impossible. Le psalmiste nous demande de regarder les cieux. Quelle étendue immense! On ne peut la mesurer! Et pourtant, ils ne peuvent contenir l'amour de Dieu tant cet amour est grand. Or, nous avons toute notre vie pour mieux comprendre cet amour, pour mieux en jouir. Faisons donc confiance à ce Dieu qui est amour.
Nous remercions Alain et Jean-Marc pour leur participation tout au long de ces deux séries sur l'amour qui se terminent aujourd'hui.
Et en fait, Alain sera de retour la prochaine fois. Mais pour nous faire part cette fois-ci de son témoignage.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.